Capítulo 11. Amores que matan. Quelques instants plus tard, la police est arrivée. En entendant mes cris, Pelayo était parti chercher de l'aide et il n'avait pas tardé à trouver deux agents qui faisaient leur ronde dans le parc. Ils ont séparé mon père et l'inconnu et ils nous ont tous conduits au commissariat du quartier. Nous avons passé une bonne partie de la journée à faire des dépositions et à signer des papiers. Ils ont placé en garde à vue Victor de la Rosa, c'est ainsi que s'appelait l'homme en noir. Nous, ils ont fini par nous relâcher après avoir pris nos coordonnées. Pelayo voulait rentrer chez lui, mais profitant que mon père était parti aux toilettes, je l'ai prié de rester. « No te vayas, por favor », le dije. Tenía miedo de quedarme sola con mi padre. Debía de estar enfadadísimo conmigo y pensé que la presencia de otra persona podría calmar su cólera. «Vale», dijo Pelayo. «Haré de pararrayos». Joué le rôle de paratonnerre. Au fond, il était sympa, ce Pelayo. En sortant du commissariat, mon père n'a presque pas parlé et nous a emmenés dans un restaurant proche décoré avec des têtes de taureaux empaillées. « El sitio no ha cambiado nada », s'est-il exclamé quand nous y sommes entrés. Il connaissait donc Madrid. Quand était-il venu? Où avait-il appris l'espagnol? Pourquoi ne m'en avait-il rien dit? Les quelques informations décousues que j'avais entendues au commissariat ne faisaient qu'augmenter ma confusion. Les questions se pressaient sur mes lèvres. Cependant, je me suis dit que le plus intelligent était de prendre les devants et de commencer par mes propres explications. « Écoute, papa, j'ai pas mal de choses à te dire. » Le hablé de los sueños en español, de l'or, de Remy, de la hipnosis, de cómo había surgido la idea del viaje clandestino a Madrid. Al terminar mi relato, mi padre parecía más emocionado que enfadado. «Mi pobre Eva», repitió varias veces. «Si no te importa, hija, por cortesía con tu amigo, vamos a hablar en español». C'était si étrange pour moi de l'entendre parler cette langue. J'avais l'impression qu'il devenait quelqu'un d'autre. «Soy yo quien te debe explicaciones, ma chère Eva». Il a démarré sa longue explication en parlant de ma mère. Comme je le savais déjà, elle ne s'était jamais bien entendue avec ses parents. À l'âge de 19 ans, elle avait quitté la France et s'était installée à Madrid pour faire ses études. J'étais sidérée. Ma mère avait vécu en Espagne. En Madrid fue donde conoció a Victor de la Rosa, continuó mi padre. Fue su primer amor. Durante varios años debieron de ser muy felices. Muchas veces me he sentido celoso de esa felicidad. ¿Celoso? Pregunté. Celoso, oui, jaloux, a traduit mon père. Pero luego Víctor empezó a volverse raro, posesivo, celoso también. Cuando tu madre tenía una cita, la seguía por la calle. ¿Ça alors? Ma mère avait été amoureuse de l'homme en noir et lui, pour sa part, il l'était resté, en jugé par les mots délirants qu'il m'avait adressés au temple de Déboz. J'ai regardé Pelayo. Il écoutait l'histoire de mon père avec la même attention avec laquelle il jouait à The House of the Dead. Tu madre decidió escapar de la relación tóxica con Víctor y volver a Francia. Tenía 22 años. Fue entonces cuando nos conocimos. Yo también había estudiado español y había hecho un stage de 6 meses en Barcelona. Todos los veranos viajábamos con una mochila por distintas regiones de España: Andalucía, los Pirineos, Asturias. Tu madre no quería volver a Madrid, a pesar de que la consideraba como su ciudad preferida. Tenía miedo del fantasma de Víctor. Ce n'était pas surprenant que ma mère ait eu peur de Víctor. Il était fou allié. Mais peut-être qu'au début, il n'était pas comme ça, que c'était son amour trop exclusif pour ma mère qui l'avait rendu ainsi. J'avais du mal à me représenter toute cette histoire, notamment mes parents comme deux jeunes voyageant sac au dos dans toutes les régions d'Espagne. Pourquoi mon père ne m'en avait-il jamais parlé? Je lui en voulais de m'avoir caché ces moments de bonheur partagés avec ma mère. « Luego tu madre y yo nos casamos y naciste tú, Eva. Cuando tenías 4 años, me ofrecieron un puesto de ingeniero en Madrid, en la filial española de France Telecom. Era un trabajo interesante y bien pagado. Tu madre siempre me hablaba maravillas de Madrid. Aún así, se resistía a ir. Seguía marcada por su relación con Víctor. Yo la convencí, recordándole que hacía más de 10 años que aquella historia había acabado. «Attends un moment, papá», suis-je intervenu. Je n'arrivais pas à lui parler en espagnol. Tu es en train de me dire que j'ai habité à Madrid quand j'étais petite? Oui, quand tu avais 4 ans, me respondió en francés, y luego siguió contando en español. Los primeros 6 meses en Madrid fueron el periodo más feliz de nuestras vidas. Teníamos un apartamento maravilloso, en Las Vistillas, cerca del viaducto, con vistas a la puesta de sol. Por la mañana ibas a la escuela en español. Por la tarde nos paseábamos por el centro, el barrio de los Austrias, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor. Algunos fines de semana te llevaba al Prado. «Perro semi-hundido», dije. Mon père m'a regardé avec étonnement. «C'est incroyable. Tu t'en souviens? Tu étais fasciné par ce tableau». «En español, por favor», intervino Pelayo. Mi padre sonrió. «Sí, claro, perdona, Pelayo». Eva estaba fascinada con ese cuadro. «¿El cuadro del perro?», preguntó Pelayo. «Sí», dijo mi padre. «Todas las semanas quería verlo». «¿Qué hace el perro, papá?», me preguntaba siempre en español. Y se retourné vers moi. Un día, tu madre te llevó al Parque del Oeste. Pasasteis al lado del templo de Devoz. Víctor trabajaba de vigilante allí y os vio. Desde entonces se puso a acosar a tu madre. «¿Acosar?», pregunté. «Y se mía la harcelé, ¿entiendes? La seguía por la calle, espiaba su ventana. Una mañana, al salir contigo de casa para llevarte a la escuela, tu madre se encontró con una V escrita en el muro con tinta roja. Avisamos a la policía, pero no nos tomaron en serio».
«Le V écrit à l'encre rouge avait donc vraiment existé?
Je l'avais vu avec ma mère en allant à l'école. Les rêves ont une meilleure mémoire que nous». Un día, Víctor esperaba a tu madre en el viaducto. Al verlo, tu madre quiso evitarlo y cruzó la calle corriendo para cambiar de acera. Elle a traversé la rue pour changer de trottoir, tu comprends? Une voiture l'a renversée. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarla. La voix de mon père s'est brisée sous le coup de l'émotion. Il a bu une longue gorgée de vin. Je me suis rappelé ce que Víctor, me prenant pour la réincarnation de ma mère, m'avait dit. No quise matarte. Et j'ai pensé à une expression espagnole que Rémé nous avait apprise. Hay amores que matan. Il y a des amours qui tuent.
Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit de tout ça?
Lui ai-je demandé avec une pointe d'amertume. Je suis désolée, m'a dit mon père. J'aurais dû le faire depuis le début. Je t'ai mise en danger avec mon silence. Je me sentais coupable. L'espagnol me faisait trop penser à ta mère. C'est bête. Elle adorait cette langue. Elle adorait ce resto. Elle adorait cette ville. Pelayo a toussé pour nous rappeler qu'il était temps de changer de langue. Nous sommes sortis du resto. Mon père nous a guidés le long de la promenade préférée de ma mère. El Parque del Oeste, el Campo del Moro, la Cuesta de Segovia, la merveilleuse Plaza de la Cebada. Il nous a montré la maison où j'avais vécu pendant 1 an. J'étais venue à Madrid pour retrouver des fantômes et je me rendais compte que c'était en France que j'avais vécu, entourée de spectres. Pour la première fois, ma mère était devenue pour moi un être en chair et en os. Je ne m'étais jamais sentie aussi proche d'elle.
¿Cómo supiste que Eva no estaba en Alemania? Preguntó de pronto Pelayo a mi padre.
Mi padre sonrió.
Llamé a Eva un martes y me dijo que había estado en el Museo de Goethe.
Por curiosidad,
miré la página web del museo y descubrí que estaba cerrado ese día.
«¿Y cómo supiste que yo estaba en Madrid?», le pregunté.
Era la primera vez que hablaba mi padre en español. «Geolocalización».
«¿Qué?».
Mi padre volvió a sonreír. «Yo también sé algo de magia».